Et plus fort.
Salut à tous, heureux de vous retrouver à Troyes sur Radio Campus 3, à Châlons-Champagne sur Radio Mono et à Reims sur Radio Primitive et RJR pour votre magazine musical régional Mais plus fort. Au programme aujourd'hui, le dernier focus sur le Cabaret Vert 2024 à Charleville-Mézières avec Julien et Fabien de RJR et Maud de Radio Mono, quant à elle, reviendra sur l'édition 2024 du festival La Tête dans le Fion à Saint-Amand-sur-Fion avec David Couvreux, son programmateur. Retour donc une dernière fois sur le Cabaret Vert 2024. Julien et Fabien de RJR étaient les reporters de Mais plus fort sur place et aujourd'hui nous écouterons leur échange avec Moss ainsi qu'avec Julien Sauvage, le directeur du festival pour le bilan à chaud. Et pour démarrer Mais plus fort, voici l'aventure, une artiste strasbourgeoise qui était dimanche 18 août dernier sur la scène Razorback du Cabaret Vert.
Est-ce que tu pourrais me raconter la genèse un peu de...
Ouais. 2021, sortie de confinement, commence à faire des dates. Au début, on est à deux sur scène, puis à trois. En fait, j'avais envie d'avoir un groupe avec moi. Et maintenant, il y a cette super équipe, c'est génial.
Voilà. Et du coup, là, tu dis, je voulais avoir un groupe avec moi. C'est toi qui es la tête pensante, c'est toi qui compose. Ouais. Et même la musique, tu l'as fait un peu toute seule ou... et le groupe arrive après?
Ouais. Ouais. En fait, au tout début... il y a quelques années, oui, je faisais avec des potes. Puis je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être indépendante à ce niveau-là et de me concentrer sur le côté musicienne de ma personne. Et donc, je m'enferme dans mon bureau et je compose sur Logic Pro. Je fais des démos que j'envoie au groupe, donc tout le monde a sa partie. Et après, on bosse ensemble les arrangements live. On répète s'il y a des idées qui sont cool et on les garde. Voilà.
Et tu te projettes en fait quand tu as tes inspirations, quand tu écris, tu te projettes déjà sur l'ensemble du groupe en disant tu arrives aussi à t'adapter à ce que les autres pourraient faire aussi avec toi.
Il y a toujours ce truc où. Enfin, c'est plus de la musique de guitare, je dirais. Parce qu'on est deux guitaristes, il n'y a personne au synthé. Après, on a les sampleurs pour envoyer quelques accords de synthé, mais c'est sûr que je vais pas faire des trucs hyper complexes au synthé alors qu'il y a personne pour jouer ces parties. Donc oui, j'imagine comment ça sonnerait avec le groupe quand je compose.
Et du coup, tu composes dans l'optique du live ou vraiment c'est... Enfin, ça dépend du moment, c'est-à-dire des morceaux tu vas faire des arrangements très très chiadés qui sont difficiles à reproduire en live ou tout de suite tu penses live et du coup, par exemple, la simplicité que tu nous disais, des accords de synthé, genre...
Ouais, j'ai plus tendance à penser live en ce moment, mais j'ai fait ça ces deux dernières années et là j'ai envie de retourner à quelque chose de plus produit. Je vais aller faire des formations à Paris pour apprendre à vraiment connaître Logic Pro cet automne du coup. Voilà.
Si on va sur le côté live, pardon, c'est hyper énergique. Tu t'investis quand même, tu te donnes.
Oui.
Tu travailles ça aussi parce que, enfin, je veux dire, moi je t'ai vu quelques minutes aussi tout à l'heure, c'est cardio quand même, elle arrive à tout faire, à jouer, à chanter, à bouger.
Alors, je pense que c'est hyper important de penser à sa santé et j'ai arrêté de fumer, de boire, je cours et je fais du kung-fu.
C'est du kung-fu, ouais.
Mais du coup, c'est vraiment. Je pensais au live en fait. En changeant ma routine de vie, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais pouvoir tenir plein de concerts de jours d'affilée si je bois, si je me bourre la gueule tous les soirs, que je fume des joints. En fait, ça peut pas marcher, on peut pas suivre. Et je trouve que c'est important de penser à ça, au fait qu'en fait, on est en train de travailler.
C'est un sacrifice pour toi? Comment tu le vois en fait? Parce que tu vis pour ça, pour la scène quelque part, c'est un peu ça.
C'était un sacrifice au début, c'est devenu vraiment un choix. Enfin, même si je faisais plus de scène, je pense que je continuerais comme ça. En fait, ça fait du bien à la santé mentale, ça fait du bien à la santé physique. Voilà.
Cool. Et cette énergie, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou les premières scènes étaient difficiles? T'es quelqu'un qui va être naturellement comme ça sur scène ou t'as dû le travailler, t'as dû apprendre à le chercher?
De base, je suis une timide, maladive. Genre, il y a 10 ans, j'avais hyper peur d'aller demander une baguette dans une boulangerie. Et la scène, c'était un peu un moyen de, bah, de, d'être soi-même, quelque part. C'est un peu cliché ce que je dis. Mais mon grand frère faisait du hard rock quand j'étais ado. Et quand je l'ai vu pour la première fois sur scène, je me suis dit... il est super réservé dans la vie. Et je me suis dit, waouh, wow, en fait, il y a un endroit où on peut faire ce qu'on veut. Et j'étais pas du tout comme ça au début, hein, bien sûr, ça a mis du temps, du travail. On a fait du coaching aussi à certains moments. Mais le but, c'est d'être, de tendre à la version la plus pure de soi-même, je dirais. Enfin, sans peur, quoi.
C'est un peu ton inspiration quelque part. Partout quand on lit tes interviews, ouais. On parle de Prince, on parle de Vines, j'ai vu ouais. aussi, ouais. Et il y a aussi un peu de chez soi, de sa famille aussi.
Ouais. Ben. Oui, mes deux frères sont dans. Enfin, on fait de la musique à un moment, je suis la seule à être restée une Saint-Amandine.
Ah ouais, les autres ont.
Non, ils font pas du tout. Ils font pas du tout ce que je fais. Y en a un qui est diplomate et l'autre a fait du droit. Mais.
Mais ça te permet de te sentir toi-même, il y a une certaine fierté de se dire bah, voilà, j'ai créé mon personnage, je suis moi. Quoi.
Ouais, enfin, le fait que je trouve plus d'assurance sur scène, j'en ai plus dans la vie. Voilà.
Et dans ce que tu racontes aussi, du coup, ça fait partie de toi aussi, ou c'est un univers que t'as créé volontairement ?
Non, c'est très, je dirais que c'est très autobiographique ce que je raconte. Ça parle de féminisme un petit peu.
Ouais, il y a un peu d'engagement.
De cœur brisé, et puis voilà.
Et le fait d'avoir des grands frères comme ça qui faisaient eux-mêmes de la musique,
ouais.
Ça veut dire que tu as partagé des disques avec eux, par exemple ton frère qui faisait du hard rock.
Ouais.
Je m'attendais pas forcément à avoir quelque chose d'aussi rock dans l'approche sur scène. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui vient de, bah, des influences à la maison, des disques qu'il y avait à la maison.
Grave, mon frère m'a fait monter sur scène quelques fois quand j'avais encore 14-15 ans. Et puis au lycée, je suis entrée dans un groupe de reprises. On faisait du AC/DC. Donc je suis un peu partie de ça. Et on écoutait aussi beaucoup de soul, Otis Redding, Nina Simone, tout ça. Voilà.
J'ai été alors sur la fin, sur vraiment la toute fin, ouais. La toute dernière chanson
ouais.
où tu dédicaces à tous ceux qui t'ont traité de folle.
Ouais.
À la fin, tu finis sur une espèce de cri de colère.
Ouais.
C'est la musique qui te permet de monter dans ce sentiment-là ou c'est quelque chose que tu arrives à créer naturellement? C'est une habitude maintenant si tu finis par ce set-là ou c'est une vraie colère qui monte au moment au niveau du morceau?
Je pense que le
cri est assez...
Ouais, c'est
intense. Ouais.
Est-ce que finalement c'est une émotion de l'instant ou est-ce que c'est quelque chose de routinier?
Des fois ça peut être routinier, mais le mieux c'est de se mettre dedans, quoi. Enfin, je pense que j'étais plutôt dedans aujourd'hui. Il y a des jours où je me dis, allez, c'est bon, faut y aller. Mais globalement, si je pense aux fois où on m'a traité de folle, oui, ça m'énerve directement, donc ça va.
Il faut être un peu schizophrène pour être un artiste.
Je pense que, le fait d'avoir oui, de...
dans Mad Girl, c'est un peu ça l'idée.
C'est carrément ça. Je pense que, c'est le regard des autres et le regard que de moi-même, en fait, comment je me suis convaincue que j'étais tarée. Et puis le côté, oui, je suis, mais je suis pas que ça. Et ça fait partie de moi. C'est pas quelque chose qu'il faut supprimer, en fait.
J'ai regardé aussi tes clips et qui sont travaillés aussi, qui font partie de ton univers.
Ouais.
Aussi, je voulais savoir aussi comment tu les imaginais, comment tu les travaillais.
En général, c'est assez clair quand je fais les démos. J'ai un peu une histoire en tête et. Me dire il faudrait qu'on fasse ça après. Du coup, ça me motive à finir le morceau parce que je me dis que je veux le clipper.
tu te projettes sur le clip avant même d'avoir parfois fini le morceau.
Ouais, enfin, Mad Girl, dans ma tête, c'était très clair. Il faut que je me batte contre moi-même. Et que. Mais si je me tue moi-même, j'existe plus non plus. Voilà.
Off My Mind, il y a un décalage entre ce que tu racontes dans le clip avec des références, etc. Et puis finalement les textes.
Ouais. Là, c'est. En fait, c'est une histoire de rupture et du fait de retrouver le pouvoir après la rupture. Mais il y avait quelque chose de. Enfin, en fait, le Off My Mind, c'est le fait d'être hanté par la personne. Et du coup, je pensais à un clip de fantôme. Ouais.
Donc on est sur Ghostbuster, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est marrant. Parmi toutes les dates, le Cabaret Vert, ça représente quoi pour toi? Parce que c'est quand même un gros festival par rapport à tout ce que tu as pu faire. Après, je crois que tu vas aller à l'étranger prochainement.
On va jouer à Vienne en Autriche, ouais. C'était très impressionnant. On est arrivé. En fait, moi, je suis jamais venue.
Ah oui, t'étais jamais allée même en tant que festivalière?
Non, on avait joué il y a 3 ans au off du festival. Et ouais, en fait, j'avais pas réalisé à quel point c'était énorme.
Donc, Autriche.
Ouais.
Et il y a d'autres choses
J'ai un EP qui va sortir le 20 septembre. Et le 27, ça sera la Péniche Mécanique à Strasbourg. On va fêter la sortie de l'EP. Voilà.
Dans l'EP, on retrouvera les sons là qu'on
exact.
Connaît un petit peu. Il y aura aussi des nouveautés.
Si les gens achètent la version physique, il y aura des versions acoustiques des morceaux. Mais plus fort. Sorry. Is what you said to me. You think it's crazy, you know. Forget about all the bad guys you see.
plus fort, c'était l'aventure avec Mad Girl. La suite, cette fois-ci, Fabien et Julien ont discuté avec Mauss, un rappeur de Charleville-Mézières qui a enflammé la scène green floor du cabaret vert.
Est-ce que tu peux nous raconter les débuts de Mauss?
Fouf. Bah, je vais te les faire en résumé vite fait, mais... Je préfère, moi j'ai commencé le son il y a quelques années. Voilà, maintenant ça fait vraiment un an et demi, deux ans qu'on essaye de le faire en se professionnalisant. Voilà, j'ai eu la chance d'être entouré pas mal au niveau de ma ville de Charleville, tu vois, par des professionnels. Encore là, moi au niveau de la tech, c'était Urbain, qui est un gars qui travaille à la Carto même. Et il y avait Seb, du coup c'était que des gars d'ici, tu vois. Donc moi je travaille qu'avec des gens d'ici qui m'ont entouré petit à petit. J'ai sorti des projets, j'ai sorti un premier projet, ensuite je me suis dit pourquoi toujours entrer dans cette dynamique de projet, tu vois, j'avais un peu le besoin de faire des choses hors cadre, donc j'ai décidé de commencer aussi une série de freestyle. Voilà, j'ai fait des concours, j'en ai perdu, j'en ai gagné. Et bah tu vois, petit à petit, là, on vient de sortir un projet de 10 titres, une mixtape fake accompagnée d'un clip pour le titre éponyme. Et puis bah écoute, step by step, hein, continue de faire les trucs, là on vient de finir la carto, on a des concerts prévus à Paris, on en a un petit peu partout, on essaye de se délocaliser. Puis on y va, hein. On y va.
C'était une question que je me posais, parce que je connais un peu le... Pour être natif d'ici, je connais un peu le circuit rock ici.
Attends, ça déchire, t'es de Charleville?
Oui, je suis de Charleville.
Ok, c'est incroyable ça. Ça fait.
Et du coup, je connais un peu le circuit rock, par où passent les groupes.
Ouais.
Mais je connais très peu le circuit rap. Où est-ce que tu joues? Où est-ce que tu trouves des points pour jouer?
Et ici, on n'a pas de scène labellisée, on n'a pas tout ça. Ouais. Ça fait que, tu vois, on n'a même pas une smack. Tu vois, on a la Massérienne, c'est en train de se faire petit à petit, mais on n'a pas tout ça. Nous, on a une MJC Calonne, on a une salle d'event, j'appellerais pas forcément ça une salle de concert, mais voilà, ils ont fait venir des petits artistes, enfin déjà des artistes. C'est par là que je suis passé, tu vois. Je me suis fait en faisant les premières parties. Le premier que j'ai fait, c'était qui? Ça devait être Al Capote. Ouais, Al Capote, Ben PLG. Et puis, tu vois, après, tu marches toujours avec les mêmes. Donc, et puis, la culture ici, elle est un peu morte. Donc, je suis un peu seul dans mon délire rap. Donc, bah ouais, tous les popeux qui sont venus ici, en vrai, j'ai pu les rencontrer, hein, que ça soit Ben PLG. Bah tiens, on l'a recroisé après. Ben PLG, on a fait Big Ali, on a fait Kalika, on a fait Simoni. Ouais, on a fait des têtes qui étaient sympas. Ouais.
T'as des connexions avec Reims parce que pour le coup, il y a une scène quand même émergente.
À Reims.
J'ai vu ton dernier clip fake
qui a été tourné à la Basilique Saint-Rémy. Exactement, frérot. Et ben ouais. Bah, alors moi, j'adore le rap, encore plus le rap local parce que je comprends pas comment le Grand Est c'est pas sur la map monde parce qu'on a des gens qui sont tellement bouillants. Juste derrière toi, là, t'as Juliane qui est une rémoise. Et c'est pareil, c'est une meuf, elle est bourrée de talent, trop big up, tu vois. Mais après, ouais, sinon, j'écoute beaucoup à Reims. S'il y a des gens en vrai que je devais citer des blasts que j'écoute, même comme ça, des fois, il y a 2-3 tracks que j'aime bien, tu vois. Je te citerai Noto. Ouais, Noto, hein, puis même sa facette humaine, en fait. Moi, je suis un gars gros, s'il était pas humain, c'est mort. J'adore les humains, mais alors il y a énormément aussi de mauvais humains, frérot. Donc ça fait que c'est bien de se checker, de se passer le CLM, de se remplir d'amour. Mais t'as vu, c'est mieux si c'est vrai.
C'est un peu ce que tu racontes dans plusieurs de tes textes, d'ailleurs.
Exactement.
C'est un peu la vie que tu racontes.
Bah ouais, gros, hein. C'est ma vision du truc. Je pense comme beaucoup d'artistes, ils te le diront, on voit nos choses à notre manière. Il y a des gens qui ont plus de facilité peut-être à donner une partie de leur cœur. Moi, j'ai cette facilité à le donner. Mais tu sais, quand je pense, toi, t'as l'air pareil, frérot. Genre, quand tu donnes trop ton cœur, frérot, après, t'as vu, tu retiens après.
Mais ça casse un peu le cliché, quand même, du rappeur, en tout cas.
Oui.
Tu vois, même dans tes clips, on n'est pas sur grosse bagnole.
Ouais, on fait.
Là, tu dis, ça rémit, c'est quand même pas le cadre qu'on imagine pour un rappeur.
Non. Bah écoute, frérot, moi, je vois le rap comme de la musique, pour pas mettre d'étiquette. Et du coup, je vois la musique comme de la culture. On fait de l'art, tu vois. Parce qu'on dit. On arrive à faire comprendre des gens aux choses et à eux-mêmes qui s'adaptent à ce qu'on est en train de dire. Un visuel, c'est pareil. Si tu fais un visuel en bas, là, c'est pas pour dénigrer, hein, c'est bien, il en faut. Mais déjà, d'une, ça me représente pas, tu vois. Je vis dans aucun quartier, alors j'ai des connexions avec plein de quartiers. J'adore tous les membres de ces quartiers-là et j'y traîne même guère souvent. Mais je suis pas natif de tout ça. Tu vois, bien sûr qu'on fait ça comme lui. Mais non, moi je suis pas. Voilà, j'ai des amis qui font ça, moi c'est pas mon délire. Donc, bah, pourquoi représenter quelque chose qui est pas moi déjà, tu vois.
C'est plus dur du coup de s'intégrer si je reste dans le côté cliché un peu.
Pour aller vers Reims, en parlant toujours de Reims.
Non,
ou...
sur le côté plus quartier, tu vois, dire bah voilà, ça vient un peu de là, de la street et tout ça.
Bon, je sais pas, je me prends pas la tête avec tout ça, gros. Je fais ma truc et tout. En vrai, je ferais pas de rap, peut-être que je ferais du sport ou peut-être j'aurais lancé une marque de fringues. Je
pense.
Ouais, grave. Mais tu vois, je pense dans peu importe ce que t'entreprends, en vrai, faut juste pas te prendre la tête. Des gens qui vont dénigrer, qui vont dire t'auras toujours. Focus-toi, fais ce que t'aimes. Frérot, déjà 75% de cette planète font pas les choses qu'ils aiment. Tu vois, donc frérot, fonce sur ce que t'aimes. De toute façon, y a que toi qui peux sentir ce qu'il y a dans ton ventre. Tu vois.
Donc s'il y a un qualificatif qui te définit, c'est authentique, quoi.
Ouais, je pense. En vrai, je pense que je suis authentique. Ouais, j'essaie de rester un maximum moi-même. Ouais, ça se sent.
Ouais, ça se sent dans la façon de parler.
Mais même toi, là, t'aurais pu te poser sur le canapé. Là, t'es accroupi.
Non, viens. T'inquiète. C'est pour les différences de sens. C'est pour
ok,
ça.
Ok.
J'avais aussi une question parce que justement, les groupes avec guitare, batterie,
ouais.
Il y a la musique qui va permettre de masquer certaines choses.
Ouais.
Le rap. T'es quasi à poil avec une production un peu derrière, avec ton son, tes textes.
Ouais.
À quel moment tu te sens légitime pour monter sur scène? Quel est le moment où tu dis vas-y, j'ai le courage?
Ben en vrai, moi le courage, déjà j'ai mis un moment, je trouve, à moi personnellement trouver un style d'écriture, et encore j'ai pas fini d'améliorer, je pense, mon style d'écriture. Mais tu sais, au début c'est un peu fouillé, tu le sens même toi à l'oreille, même si tu veux, tous tes potes tu dis oh ça déchire, beau gosse et tout. Ton oreille ça flanche à un moment. Si même toi tu commences à faire des concours à l'échelle de ta région et que là les professionnels ils disent. Et moi c'est comme ça en fait, je t'ai dit, je fais plusieurs concours, j'en ai perdu pas mal. Mais t'as vu, j'ai la dalle en vrai. Je veux dire, j'aime trop ça. La musique, frère, ça déchire, tu vois. Et bah voilà, à force de faire des concours, à un moment il y en a un où j'ai réussi à notre échelle dans notre ville. Et c'est là où du coup on m'a dit, on peut plus te laisser de continuer tout seul. En fait, il faut que tu commences à faire des trucs parce que tu pars sur la bonne voie. Tu vois, là j'ai fini le Green Floor. Ma première question au niveau de mes techniciens son, c'était alors le rendu retour. Ils m'ont dit, frérot, très très lourd, mais encore du boulot. Tu vois, et le jour où Seb il me dira qu'il n'y aura plus de boulot, je me dirai, putain, mon ingé l'a changé. Tu vois, il y a toujours du boulot, gros. Mais je suis passé par là, tu vois, pour réussir. Et puis step by step, hein. Step by step.
Comment tu travailles? T'écris d'abord et ensuite tu fais l'instru, l'inverse, les deux?
Alors, déjà au niveau des instrus, moi je compose pas. Ouais, moi je compose pas mes prods. Voilà, soit je reçois carrément des palettes d'instrus où il y a plusieurs instrus, alors des gars d'un peu partout dans la France. Pour le coup, là, carrément sur le projet, on a collab avec un Rémois, un jeune, je crois, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 16 ans, 17 ans. C'est un jeune, il est bouillant aussi dans son délire, il s'appelle Plasma. Il est sur l'intro du projet. Donc au niveau des prods, moi j'achète des licences où en général je récupère ce qu'on m'envoie. Après, mes textes, c'est moi qui compose, j'ai un studio à la maison, donc voilà, je fais tout l'aspect un peu création chez moi. Et dès qu'une fois que j'ai un bundle de titres qui me semble assez sympa, bah on va en studio.
Et t'attends d'avoir l'instru pour...
Pas forcément.
Ça va m'embarquer dans un univers.
Non, des fois tu trouves des lines, t'essayes de les poser comme ça, et puis hop, ça vient. Mais j'avoue, majoritairement, en vrai, t'attends, tu sais, l'instru, déjà c'est musical. Tu sais, moi, ma voix, c'est qu'un instrument parmi déjà tout ce qu'on entend. Mmh. Donc ça fait que l'instru, elle fait beaucoup. Et j'avoue que c'est grave important pour l'émotion que toi tu veux retransmettre en plus de temps.
Et t'as des aspirations ou t'écoutes des artistes en particulier? Parce que je trouvais en écoutant plusieurs de tes sons que
ouais.
Dans ton flow, ton rythme, t'évolues quand même.
Ouais.
Tu restes pas toujours sur le même calibre.
Ah bah ça tue que tu me dis ça, frérot. C'est une question que je me pose beaucoup. Putain, est-ce que j'en s'ennuie? Est-ce que ça change un peu?
Ouais, non, je vois que tu changes un peu. Alors je sais pas si
c'est
parce que tu veux faire évoluer ton projet ou.
J'ai pas forcément des inspirations de fou. Je te dirais, là, le top artiste que j'écoute vraiment là en 2024, au jour J, là, c'est Zola.
Mm-hmm.
Ouais, Zola, j'écoute de fou. Je trouve. Vraiment inspirant. Après, ceux qui m'ont lancé dedans, en vrai, ça va être un même sac. Moi, mon artiste préféré, gros, c'est Gizmo.
Ok.
Tu vois, ça veut dire si demain j'aimerais collab avec des gens, ça serait des Gizmo, ça serait des Medine. Tu vois, ça serait des gens, tu vois, un tonton, Rimka, serait incroyable. Tu vois, que des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est ça le rap, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'en plus, en 2024, on redécouvre le rap. Quand il y a une chaîne télévisée qui passe de fou. Nouvelle école.
Ouais.
Gars, on a besoin d'attendre que Youssef Swat gagne pour dire merci le rap. Frérot, le rap, il a toujours été là. C'est vous qui écoutez un style de rap.
Ah bah c'est vrai. Et du coup, tu travailles différents flows, tes mesures, tu les travailles ou c'est un peu
ton
humeur?
Ouais, c'est comme ça en vrai. J'écris, je trouve c'est stylé. Tu sais, comme toi, t'es en soirée, je pense que tu prends une ou deux canettes, tu commences à chanter, tu dis putain, mais c'est cool, tes potes ils te rejoignent dans le chant. Frérot, bah toi tu pourrais écrire peut-être, tu vois.
Non.
Non.
préfère que ce soit toi qui le fasse. Okay, okay. Je préfère poser les questions.
Il y a déjà eu des tests.
Ah ouais.
Il y a des trucs qui existent. On a fait 2-3 parodies, c'est bien que ce soit sous le
tapis. Moi, je vais recevoir un DM avec la ganache de cet homme.
Il y a des trucs qui existent.
J'adore.
Non, sous le tapis, c'est bien.
Ok, bon, on va grafouiller sous le tapis.
Poser les questions. Ouais.
Du coup, tu disais, tu enregistres. Où est-ce que tu enregistres Calonne ou c'est t'as d'autres structures qui t'accompagnent?
Non. Le Calonne, c'est vraiment une salle de concert pour le coup. Ouais. Moi, j'ai un studio d'enregistrement à Sedan. C'est le studio Echo. Studio Sapristi, pardon. Ah ben, Echo, c'est un lieu de répétition. Voilà. Bah forcément, tu vois, toi qui connais. Donc ouais, je suis beaucoup au studio Sapristi, bah qui est géré par Sébastien Han, justement, qui était le régisseur, qui était là avec moi en texon. J'enregistre là-bas, j'ai enregistré aussi pas mal chez Centaure. Là, l'intégralité du projet de la dernière mixtape a été enregistrée chez Centaure. Les masters ont été faits à Sapristi par contre, voilà, parce que j'adore comment masterise Seb. Tu vois, on bouge, hein. Là j'aimerais bien bouger vis-à-vis de Paris. J'aimerais bien bouger un petit peu partout pour Rec, Paris, BX, on tâte, on voit bien.
Et ouais. Du coup, du coup, la suite pour toi, c'est quoi?
Là, la suite pour moi, je pense que du coup, ici, on a tout fait. Donc, ce serait bien un peu de trouver un peu des gens avec qui on pourrait vraiment connecter sur Reims. Parce que je pense que c'est la région qui est juste à côté. Et que si on veut mettre vraiment le Grand Est sur la map monde, il faudra passer par Reims, tu vois. Voilà, faudra passer même par cet ego, je pense, qu'est le Rémois de base de nature. Et voilà, on va avancer ça. Le but en vrai, c'est de bouger. Hein. Là, tu vois, j'ai peut-être des scènes qui sont prévues en Allemagne, j'ai des scènes qui sont prévues à Paris, j'ai des scènes qui sont prévues. On prend ce qu'on nous donne. Hein.
Et justement, une date comme le Cabaret Vert, ça aide à prendre des contacts. Il y a en coulisses derrière, tu croises des gens ou pas?
Bah ouais. Ouais, derrière tu rencontres du beau monde, en plus des gens, c'est ça la dinguerie en fait. Je comprends pas pourquoi il y a pas masse d'artistes qui sont pas eux-mêmes. Parce que plus t'es toi-même justement, plus tu retiens les gens en plus. Ou forcément, tu vois, tu tchatches, moi je vais vite à discuter, à trinquer une bière avec quelqu'un, mais toi tu fais ça, ah ouais, moi je gère la tournée de lui, ouais, comment ça? Tu vois, même là, gars, on était avec Urbain, c'est pareil, un gars qui travaillait à la Carto, ce gars-là, dis-toi, c'est le régisseur son de This is La Peste. Connexion simple. Le monde est trop petit en fait. Le monde est trop petit. Donc voilà.
Y a du nouveau qui va sortir bientôt, le mois prochain, je crois.
Là, il y a un prochain projet, enfin, un prochain titre qui va sortir sur les plateformes. Et puis, on va rendre disponible la mixtape intégralement sur YouTube pour que tout le monde y ait accès.
YouTube,
MOS Song, Instagram, MOS officiel. Et tu me retrouves sur tous les autres réseaux comme ça.
Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer.
Mais plus fort. Je traîne dans la merde mais j'aime tout ce qui brille. Capable de l'impossible tout pour les proches. Si tu savais ce que j'emmagasine, je suis dans ma roue libre. La tête est solide, je rêve d'une carrière à la Kobe. Si je refais le monde, ça va me kill me. Il faudrait des kills pour me calmer. Alors je suis distant, tellement j'avance, je mets des distances. J'aime pas les fakes, les bords, les langues de vipère. Je suis pas comme vous donc je rends mes distances. Fake, comme tous vos sentiments. Sur 10 personnes, y'en a 100 qui mentent. Je suis dans la vraie vie où y a pas de sentiments. Encore un été dans le bâtiment. Fake, fake, comme vos sourires ou vos paroles. Fake, fake, mets du respect sur la daronne. Tout est fake, comme l'appel au viol sur l'ensemble de vos réseaux. J'ai plus qui a tort, qui a raison, si c'est moi le problème ou bien les autres. Vision nocturne, j'ai mes skills, j'travaille pour changer la vie. Pour qu'à dépiter des rimes, boy, gros, j'ai mon flow, j'ai mon style. L'impression de vivre le pire, gros, je ressens le poids sur mes épaules. Gros, moi je suis né pauvre, du coup je m'interdis de mourir ainsi. Mais pour l'instant, gros, je suis zépo. Fake, fake, le monde est rempli de fake news. Pas là pour que j'étale ma science, j'dirais que la vie est une vraie pouf. Ça coûte un bras pour la ken tout en silence. Oui, je la trouve moins fraîche que sur Facebook. J'ai quelques trois, j'ai des licences. Let's get it. Fake, 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 fake. Fake est le monde dans lequel je me suis bloqué. Je me suis blotti, c'est l'âge dupe sur le flow. Gros besoin de flou, j'sais même pas si moi ça va. Je roule une grosse rap dans la casa. Tout en me rapprochant de l'au-delà. C'est la patte du gars qui les attire. À ce qui fait toi, ça tire et que ça fait les quilles. Fake, fake, comme vos sourires ou vos paroles. Fake, fake, mets du respect sur la daronne. Tout est fake, comme l'appel au viol sur l'ensemble de vos réseaux. J'ai plus qui a tort, qui a raison, si c'est moi le problème ou bien les autres. Vision nocturne, j'ai mes skills, j'travaille pour changer la vie. Pour qu'à dépiter des rimes, boy, gros, j'ai mon flow, j'ai mon style. L'impression de vivre le pire, gros, je ressens le poids sur mes épaules. Gros, moi je suis né pauvre, du coup je m'interdis de mourir ainsi. Mais pour l'instant, gros, je suis zépo.
spécial Cabaret Vert avec Mos dans Mes Plus Forts. Le dernier jour du festival Cabaret Vert, Julien a posé quelques questions à Julien Sauvage, le directeur, qui tirait un bilan à chaud de l'édition 2024.
On est sur une très très belle édition. On est surtout contents, c'est depuis 2019 qu'on réfléchit à cette nouvelle déambulation, à ces nouveaux aménagements. On a enfin pu faire le grand pas avec toutes les péripéties qu'on a pu connaître qui nous ont forcément ralenti, hein, notamment le Covid. Et bah là, ça y est, on voit ce site qu'on a un peu imaginé vivre, qui vit quand même plutôt assez bien. J'ai l'impression qu'il y a peu de lupé, même s'il y a encore, il y aura forcément des choses à revoir. Mais jusqu'à présent, le festival n'ayant pas encore fermé ses portes, on est très satisfait, oui.
Justement, qu'est-ce qu'on doit retenir justement de ce nouveau réaménagement après quasiment 4 jours désormais ouverts au public?
Moi, ce que je retiendrai, deux choses. La dimension que prend le festival, et on le voit tout particulièrement sur cette zone de la Grande Seine où on a, là, on sent qu'on est devenu un festival européen, un festival majeur, un festival important. Et puis, ce réaménagement assez poétique le long de la Meuse. Et c'est marrant parce que la Meuse est un fleuve, comme vous le savez, qui est transfrontalier, qui traverse plusieurs pays. Donc, en plus, ce petit côté sans frontières, liberté entre guillemets, nous fait plutôt bien marrer. Mais ouais, je retiendrai cette scénographie où on sait qu'on va encore faire mieux dans les années à venir. On n'abandonnera pas, on va toujours encore créer de nouvelles surprises. Mais oui, c'est un vrai satisfait, presque un petit peu un ouf de soulagement depuis le temps qu'on réfléchit à ça, et on a enfin pu travailler cette année et puis le réaliser.
Ouais, c'est une forme de soulagement, effectivement, de se dire que ça y est, on y est, parce que ça fait des années qu'on en parle quand même.
Ouais, c'est ça fait des années qu'on en parlait, qu'on avait ça dans un coin de notre tête. On voulait refaire une édition, au moins une édition normale, pour vérifier qu'on maîtrisait bien le festival. Moi, je veux pas qu'on grille trop rapidement les étapes. Un événement comme le nôtre, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'aléas, beaucoup d'imprévus. Donc allons-y avec humilité, étape par étape, maîtrisons les choses, et on prend le temps de s'agrandir, de redéployer le site. Et donc effectivement, avec les 2 années de Covid, on a pris un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Et effectivement, il y a une certaine forme d'aboutissement, mais par contre sûrement pas de fin.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une dynamique qui est entretenue et il faut continuer ça.
Bah là, je dirais même qu'il y a une dynamique qui est engagée, puisque c'est comme pour ceux qui fréquentent le Cabaret Vert depuis longtemps, c'est un peu le troisième chapitre de l'aménagement du site. Ouais.
Vers quoi on va aller maintenant?
Vers quoi on va aller, c'est une bonne question. J'ai encore pas mal de choses à partager avec l'équipe, mais cette édition, elle nous a apporté pas mal de réponses, pas toujours positives d'ailleurs. Je sais qu'il y a vous le savez tous, hein, il y a un vrai problème dans notre filière, voire même dans notre secteur d'activité, qui nous pousse, et ce qui est pas un mal d'ailleurs, à nous réinventer. Donc encore une fois, je pense qu'on va dormir un petit peu, mais je pense que le format du festival va être amené à évoluer. Et moi, je garde quand même dans un coin de ma tête un peu un doux rêve sur ce côté un peu touristique. C'est au moins l'avantage du Covid. Je pense que des départements comme le nôtre ont leur carte à jouer. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la fréquentation touristique dans les Ardennes augmente sensiblement. Et je pense que le Cabaret Vert a probablement un coup à jouer. Après, voilà, ça reste encore un peu flou. Il faut qu'on se pose encore un peu les bonnes questions. Qu'on voit un petit peu aussi ce périmètre. On est dans un écosystème, on l'a dit tout à l'heure, on travaille avec d'autres festivals européens, on peut se retrouver d'ailleurs en confrontation avec des gros mastodontes européens. Donc tout ça est à mesurer compte tenu de la responsabilité qui est la nôtre maintenant. On n'est plus ce petit festival associatif d'une bande de copains qui avons monté ça à Charleville un peu pour rigoler, un peu pour filer un coup de main au territoire. Faut prendre le temps, mesurer et surtout prendre le temps de construire.
Et d'ailleurs, ça se ressent, hein, évidemment, on parle d'ancrage territorial, mais au niveau de la fréquentation, même si on n'a pas les chiffres, en tout cas dans la diversité, on a l'impression que ça vient de plus en plus loin.
Ouais, ça vient de plus en plus loin, mais avec un petit point négatif qu'on a évoqué pendant la conférence de presse, c'est que cette année, la trop thématisation musicale par journée a fait que la fréquentation générale du festival s'en est pas ressentue, mais ressenti, mais on a beaucoup moins de passes 4 jours qui ont été vendus. Et aujourd'hui, on sait que on l'a mesuré à l'occasion de notre bilan carbone qu'on a publié en 2023. La première source d'émissions de CO2 du festival, c'est la mobilité des publics. Donc on a commencé un plan assez ambitieux en matière de mobilité qui a été pas mal reconnu pendant le festival par de nombreux médias, avec l'appui d'Ardennes Métropole et de la région Grand Est principalement, hein, c'est pas les seuls. Mais je pense que c'est aussi à nous de créer un contexte peut-être plus favorable. Donc ça fait partie, je pense, des débuts de réponse, en tout cas, qui sont arrivés sur cette édition. La baisse des passes 4 jours, là, elle a été vraiment, vraiment significative.
C'est aussi une évolution sociétale, de se dire que la consommation de la musique, des festivals, de la mobilité, effectivement, est en train d'évoluer.
Ah ben ça, c'est sûr. De toute façon, si on regarde le milieu des festivals, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Je crois que cet été a été une année un peu compliquée pour nombre de festivals. On a la chance de faire partie de ceux qui s'en sortent bien. Je crois que la fréquentation n'est pas approuvée. Mais je pense qu'il ne faut pas considérer ce qui a été réussi cette année comme acquis. Ça serait, à mon avis, une grosse erreur. Et dans tous les cas, moi, je suis pas un gestionnaire, et je pense qu'on perdrait, s'il n'y avait pas cette énergie, cette inventivité sur le festival, je pense qu'on perdrait bon nombre de personnes dans les équipes. Donc on n'a pas peur de se dire qu'il va y avoir des choses à réinventer, que ce soit au Cabaret Vert ou plus globalement sur les festivals.
Sur tout le chemin qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, depuis la création du festival, c'est quoi la chose que tu as envie de retenir?
Eh ben, bizarrement, je dirais que par rapport à la grosse machine qu'on est devenu, je doublerais un peu, c'est un peu la même réponse, mais je la préciserais, le côté humain et l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les organisateurs de grands événements, quelle que soit la thématique de l'événement, vous le diront, arriver à faire du local et de qualité comme on le fait aujourd'hui, c'est assez dingue. D'arriver à garder cette notion bénévole, je crois, en tout cas j'aime à croire, et c'est ce qu'on entend régulièrement, qu'on nous dit souvent, le Cabaret Vert dans les grands, c'est pas comme ailleurs, il y a une âme, il y a quelque chose de particulier, et ça, je crois qu'on le doit justement à l'équipe, à la manière dont sont accueillis les gens. Et c'est assez dingue d'entendre, ouais, mais ici c'est humain. Enfin, quand on voit les chiffres, on peut prendre n'importe quel chiffre, c'est difficile de se dire c'est encore humain. Et donc ça, c'est tout l'enjeu. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on prend le temps de grandir, de développer de nouvelles choses. On veut pas non plus trop brusquer, mais en même temps, on veut pas rester... c'était il y a 20 ans, le premier Cabaret Vert. Le monde, il a changé, et donc il faut que nous aussi, on change.
Ça reste quand même, sur une édition sur 4 jours, une édition record.
Voilà, ouais, effectivement, édition record sur 4 jours, avec la journée la plus fréquentée que le festival ait jamais connue, en l'occurrence ce dimanche 18 août. C'était un peu la volonté, on repart sur ce nouveau festival, mais on grille pas les étapes, et puis on se permet le luxe, en tout cas c'est ce qu'on espérait, d'avoir au moins une journée avec une fréquentation plus haute que ce qu'on connaissait traditionnellement, hein, pour voir un peu comment le public se comporte, comment l'imagination qu'on a eue sur ce réaménagement était vécue par le public, parce que ce qu'il y a sur le papier et puis ce qui se passe en réalité, il y a forcément du décalage. Donc voilà, on y va étape par étape, mais oui, effectivement, record de fréquentation sur 4 jours du festival, donc c'est très bien, mais ce qu'on verra apparaître demain dans les médias, c'est moins, j'ai pas fait le calcul, mais moins 10%, donc lu de manière assez rapide, certaines personnes... non, mais dans les médias, alors je vais le dire autrement, dans les médias spécialisés qui s'intéressent au festival, il y a de plus en plus maintenant de présentations de festivals par classement, avec plus 20, moins 10, plus 5%, et sans forcément avoir d'explication. On le voit notamment dans le News Tank, par exemple, que j'ai en tête, qui est un peu notre... dans la filière, le fil d'actu quotidien de tout ce qui se passe en matière de musique à travers le monde. Et donc effectivement, ils sont aussi obligés de condenser l'information, et donc il y a des résumés qui sont peut-être un peu trop synthétiques à mon goût. J'ai des amis qui ont un festival qui l'année dernière ont fait un choix de le redéployer en plus petit pour des raisons de développement durable. Ils trouvaient pas ça forcément cohérent la dynamique dans laquelle ils étaient jusqu'à présent, et donc pour beaucoup de gens ça a été bon alors édition catastrophique, ça s'est mal passé pour vous. Non, pas du tout. Donc le problème du chiffre, c'est qu'on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, un chiffre quand il est sorti de son contexte ne veut absolument rien dire. Après oui, effectivement, là en l'occurrence le chiffre est plutôt bon cette année, on va pas s'en plaindre.
Tu parles beaucoup de sommeil et de dodo là depuis tout à l'heure, mais...
J'ai pas en chiffres, c'est pas beaucoup, oui. Non, puis en plus, moi je suis hyper faible là-dessus. On a quelques mecs dans l'équipe qui sont capables de faire 3-4 heures par nuit pendant 2-3 semaines. Moi, putain, quand j'ai pas mes 8 heures de sommeil, ça devient compliqué. Donc là, oui, autant vous dire que depuis 2 semaines, je suis pas sûr d'avoir eu une nuit de 8 heures. Enfin, c'est même... Non, je suis sûr de pas avoir eu une nuit de 8 heures. Mais assez étonnamment, je suis devenu un spécialiste de la micro-sieste. Et le 15 minutes généralement, quitte à le reconduire une deuxième fois dans la foulée pour pas avoir le temps de rentrer dans un sommeil profond, donc un peu comme les navigateurs, je commence à l'avoir apprivoisé, donc je crois que j'ai une tête un peu moins pire que d'autres éditions. Et pour autant, ça n'a pas été une édition facile, avec tous les imprévus, tous les petits couacs, etc. qu'on a pu voir. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est impossible un événement qui se déroule sans imprévu. Et quand on prend un peu de recul, sur le coup c'est jamais marrant d'être surpris. Néanmoins, quand on a un peu dormi et qu'on a un peu digéré tout ça, je le dis, moi je suis absolument pas un gestionnaire, je me verrais pas gérer une salle de spectacle où on fait juste que changer les artistes, un festival étant une salle de spectacle à ciel ouvert.
Mais une fois que les festivaliers seront partis ce soir, cette nuit, que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe derrière, qu'il y a tous les démontages, les bilans à faire.
Alors non, il y a déjà une première chose qui est assez traditionnelle. Il y a une sorte de soirée. Alors c'est pas hautement folklorique, mais on se voit pas fermer les portes et chacun aller coucher chez soi. Donc on a effectivement des équipes de nuit qui commencent déjà à travailler. On demande à l'ensemble des pôles de cliner sommairement leurs espaces, et on réunit l'ensemble de ceux qui le souhaitent et qui ont encore un petit peu de jus pour quelques heures autour d'une fête entre le pot et la fête. C'est un peu entre les deux, avec un petit DJ local avec qui on s'entend très bien, qui vient un peu nous encanailler pendant quelques heures. Le lundi matin est chômé par une grande partie de nos équipes, parce qu'effectivement, rattaquer le démontage nous demande quand même beaucoup d'énergie. Et globalement, on pourrait dire que la semaine entière qui suit le festival est dédiée au démontage pour l'ensemble des équipes. On est encore quelques centaines, puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus, les équipes techniques se retrouvent de plus en plus seules pour finir la fin du démontage.
Mais plus fort.
Tomorrow's happiness, gonna live like it's the end. I love you too.
Libertines dans Mes Plus Forts pour refermer le dossier Cabaret Vert 2024. Pour nous approcher de la fin de l'émission d'aujourd'hui, Maud de Radio Mono a elle aussi fait un bilan, mais cette fois-ci du festival La Tête dans le Fion, avec David Couvreux, son programmateur. La Tête dans le Fion avait lieu du 14 au 16 juin dernier. Ils ont tout d'abord abordé ensemble le changement de physionomie du site.
Pour cette année, pour La Tête dans le Fion, c'était notre sixième édition, donc sur 8 années d'existence. Et ce qui est vrai, cette année, on a eu un gros défi, puisqu'on a dû revoir toute notre organisation du terrain, tout simplement. Le festival a accueilli avant, sur 3 jours, les festivaliers, mais sur un terrain assez grand, qui est plus grand qu'un terrain de foot, et qu'on n'avait pas eu possibilité d'avoir cette année. Donc on a dû tout revoir au niveau de l'emplacement des scènes, de l'accueil, des food trucks, etc. sur d'autres espaces de la commune. Donc ça restait toujours au centre du village, mais avec une concentration un peu plus large sur deux rues en parallèle, en fait.
Bah, du coup, au niveau de l'organisation, comment vous avez fait, en fait, pour... Ça a été quand même... Vous avez été prévenu en avance,
oui, bien sûr, mais on a eu cette difficulté parce que c'était pas un terrain public, entre guillemets, ouais. qu'on a plus, en tout cas qu'on n'a pas eu cette année, et on a fait autrement, et on s'est adapté, et au final, ça s'est très très bien passé, et on a eu beaucoup de retours positifs des festivaliers, qui étaient très contents de la nouvelle organisation de l'espace, et qui au final étaient beaucoup plus sympas pour eux, puisque ça leur permettait de vraiment traverser tout l'espace avec un certain escalade, entre guillemets, pour les différents lieux du festival, puisqu'il y avait un lieu accueil, un lieu pour acheter la monnaie locale du festival, l'accès au food truck, qui était une zone dédiée où on entendait moins la musique, puisqu'on n'était pas à côté des scènes. Et c'était vraiment un espace sympa pour eux, puisque ça permettait tout simplement de reposer aussi les oreilles de temps en temps au moment où ils allaient chercher à manger, tout simplement. Ouais. Et après, un espace où il y avait une scène, une petite scène, ça c'était aussi une nouveauté, et un deuxième espace avec la grande scène et la partie hall et bar.
Ouais, surtout qu'il faut le rappeler, c'est un festival familial, donc forcément il y a des enfants.
Oui.
Donc justement d'avoir un lieu, bon là pour le coup c'était la restauration, où il y a moins de bruit, c'est hyper important, et en fait on s'en rend pas forcément compte quand on n'organise pas.
Oui, tout à fait. Bah, avant les food trucks étaient quasiment en face de la scène et le son n'était pas forcément génial quand on était au food truck, puisque c'était assez éloigné et c'est pas adapté. Là c'était vraiment plus sympa, et puis c'était assez joli puisqu'on traversait un espace vert de la commune qui est très sympa à voir.
Est-ce qu'il y a eu des performances ou des œuvres d'art, hein, parce qu'il faut le rappeler, c'est un festival d'art et de musique, et donc est-ce qu'il y a des performances qui ont particulièrement marqué les esprits cette année?
Musique ou art invité?
Et ben, les deux.
Ok, ben, un invité, donc chaque année, le festival, ça fait partie de l'ADN du festival. On accueille un invité différent chaque année. Donc il y a pu avoir la danse, le cirque, etc. Cette année, c'était la peinture. Donc qui sert de fil conducteur pendant le festival, et on a des actions, des choses qui sont faites par rapport à cet invité tout le long du festival. Donc la peinture, il y a eu de la peinture sur un corps d'une personne, tout ça, du body painting qui a été fait sur scène pendant le festival, donc ça c'était sympa aussi. On a eu du street art, enfin des choses qui sont faites qui ont été peintes sur des murs autour du festival, qui vont rester, qui sont aussi sympas. On a eu un concours de peinture avec les enfants le dimanche, avec une fresque qui était importante. On a eu des grands tableaux aussi faits par rapport au village et la musique, un lien avec le festival. On a eu pas mal de choses autour de la peinture et c'était très sympa. Et par rapport à la musique, alors les effets marquants, c'est principalement les têtes d'affiche qui étaient assez surprenantes, puisqu'on a eu un bel accueil des groupes. C'était pas forcément des groupes hyper connus, mais qu'on bien plu, et les festivaliers étaient très contents de les découvrir.
C'est le plus important. Donc, finalement, on va parler de la fréquentation maintenant.
Oui.
Est-ce que vous aviez un objectif particulier?
Alors, vu qu'on a changé de configuration au niveau de l'espace, on s'était pas donné d'objectif de quantité, puisque justement on avait un petit peu peur que l'espace limite légèrement restreint, et en fait c'était pas vraiment le cas, parce qu'on a étendu l'espace en longueur et au lieu d'avoir un grand terrain, on avait peur un petit peu que la fréquentation soit trop importante et que ce soit compliqué. Et au final, ça s'est très bien passé. On s'était pas d'objectif particulier, juste essayer de maintenir ce nombre, puisque on l'a plus ou moins maintenu, puisqu'on était à 12 000 festivaliers pardon, sur 3 jours, un petit peu moins que l'année précédente, mais on est très content d'avoir fait ce chiffre. Voilà.
Comment le festival est perçu dans le milieu local, par les habitants?
Bah c'est un festival qui est ancré sur le territoire maintenant, et donc qui commence à être bien connu, en tout cas dans la Marne au minimum. Mm-hmm. Donc c'est vraiment très familial, donc tout le monde vient, ça dépend du public, hein, suivant les 3 jours, le public n'est pas tout à fait le même. Mm-hmm. Mais tout le monde est ravi de revenir à cet événement chaque année, et au niveau du village, tout le monde participe, il y a énormément de bénévoles du village qui mettent en place le festival, donc ça montre aussi l'importance de ce festival pour les habitants, et beaucoup de gens apprécient l'organisation et viennent nous aider, tout simplement.
C'est devenu un rendez-vous finalement pour les habitants. Je voulais juste revenir peut-être sur la fréquentation. Est-ce que vous savez en termes de public qui oui. vient le plus? Est-ce qu'on est plus sur des personnes âgées, des jeunes, des familles?
On a 3 jours depuis quelques années maintenant, et il y a des thématiques par journée. Donc le vendredi, c'est une soirée plutôt électro avec des DJ. Donc c'est un public plutôt jeune. Mm-hmm. C'est souvent la journée ou la soirée plutôt où il y a le plus d'influence. Donc on a déjà eu 5000 festivaliers le vendredi. Le samedi, c'est plutôt rock, mais après ça a pu être ouvert à d'autres styles, et je dirais plutôt contemporain. Et le dimanche, plus familial, pour qu'il y en ait pour tous les goûts et tous les âges.
Ce festival, il est gratuit?
Alors ça fait partie de l'ADN de l'association La Tête dans le Fion. Depuis le début, le festival propose un accès totalement gratuit pour tous les publics. Et c'est comme ça depuis le début, ça a certainement continué. Et c'est très important pour nous de proposer la culture gratuite pour tous. Le festival ne peut pas exister sans les bénévoles. On est une vingtaine, 20 à 25 personnes au sein de l'organisation, l'association qui travaille toute l'année. Mais ces 20 personnes ne pourraient pas organiser ce festival sans les autres bénévoles présents pendant les 3 jours. Et que ce soit avant pour les installations, ou pendant et après pour le rangement, tout simplement. On a été jusqu'à 108 bénévoles pendant ces 3 jours. Entre 10 ans et 77 ans. voilà, une moyenne entre 50 et 80 bénévoles par jour. Pas mal de monde, et voilà, j'en profite à nouveau pour les remercier au nom de l'association.
Et finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Que le festival continue en essayant d'apporter toujours des nouveautés, et puis que tout le monde soit satisfait du festival, de la programmation, puisqu'on essaie de présenter des artistes qui plairaient entre guillemets à tout le monde, à tout public, à tout âge. Donc on essaie de promouvoir la culture, musique et d'autres arts de manière variée.
C'était David Couvre du festival La Tête dans le Fion, au micro de Maud de Radio Mono.
Mais plus fort.
Et c'est avec une artiste chalonnaise qui était à La Tête dans le Fion que se conclut l'émission pour aujourd'hui. Voici Silda avec son nouveau titre, Petit Cœur. Amis de la musique de tout poil, rendez-vous d'ores et déjà dans le prochain épisode de Mais plus fort. Il arrive très vite sur RJR, Radio Mono, Radio Campus 3 et Radio Primitive.
Un jour d'été brûlant, on t'a laissé ici, sous la lumière du soleil, sans un bruit. Ton collier sans prénom et l'odeur que tu traînes te rappelle ta maison et ta peine. Si aimé autrefois, maintenant c'est le froid, prisonnier de l'errance, en quête d'une chance. Petit, petit cœur, petit, petit corps, en alerte sur les routes désertes. Petit, petit cœur, petit, petit corps, presque inerte sur les routes désertes. D'amour qui cherche en vain une ombre sans retour. Tes pattes sont fatiguées, fatiguées d'espérer, mais la route des vacances est sans pitié. Si aimé autrefois, maintenant c'est le froid. prisonnier de l'errance, en quête d'une chance. Petit petit cœur, petit petit corps, en alerte sur les routes désertes. Petit petit cœur, petit petit corps, presque inerte sur les routes désertes.
Plus fort.